Bonjour et bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle qui rêvent parfois de moutons électriques. Votre hôte, Jean-François Sénéchal, professeur d'éthique à l'Université Laval, passionné d'éthique, d'intelligence artificielle, de tout cela. Passionné de podcasts, entre autres. J'en écoute plusieurs. Un jour, je vous ferai peut-être quelques suggestions. Mais sinon, je suis rendu à deux podcasts. Là. j'en produis un dans le cadre de mon cours et le second, ben, vous le connaissez bien, c'est le podcast IA Café. D'ailleurs, je me permets de vous annoncer, mais là, c'est sûr que vous le savez, mais pour nous autres, c'est la semaine dernière, donc le 29 octobre, que c'était le lancement officiel de notre podcast IA Café. Donc, vous l'avez compris, là, on n'est pas exactement en phase avec la publication, le moment de publication puis le moment de production n'est pas exactement le même. On avait mis en banque là, une dizaine, sinon on était quasiment rendu à 12 enregistrements là, au moment où on a publié notre premier. Histoire de nous donner là, un petit coussin parce que des fois il y a des retards, puis des fois on n'est pas capable de produire au bon moment parce qu'on a des horaires évidemment bien occupé. Ce sera notre rythme de production. Donc, la semaine dernière, nous avons officiellement publié notre podcast IA Café. J'espère qu'au moment où vous allez écouter cet épisode, que ça répond bien pour vous, ça répond à vos besoins, puis que vous aimez ça. Ce matin, justement, là, je réécoutais la discussion qu'on avait eue, là, c'était l'épisode 3, je m'amusais bien. C'est-à-dire, je me suis dit, si je ne suis pas capable de réécouter ce qu'on produit, tu sais, là, c'est faut que ça soit bon. Puis effectivement, là, c'était intéressant de voir là, au début, puis on voit qu'on progresse. On voit aussi qu'il y a des thèmes là, qui viennent, qui reviennent, qui vont revenir d'ailleurs dans nos prochains enregistrements. Mais c'est ça, c'est une expertise qui est en construction, la nôtre. J'espère que vous aimez. Donc, depuis 29 octobre, je publie, le rythme, c'est une fois ou deux semaines. Ça se peut que ça soit trois semaines, là, on verra. J'espère que vous aimez le contenu. Aujourd'hui, mes collaborateurs sont les mêmes depuis quelques enregistrements. La première, elle est là et elle rêve secrètement de donner un coup de pied à un robot. Ève Gaumont est avec nous. Ça va bien, Ève?
Merci, toi.
Tu comprends-tu ce à quoi je renvoie? Là, c'est cette semaine, tu m'as partagé un article c'est un article du MIT où le titre c'était « Is it okay to kick a robot? » Donc, puis finalement, c'est-tu correct de donner un coup de pied à un robot? T'as-tu lu?
En fait, c'est ça. J'écoutais justement en préparation avant de t'envoyer ça, j'écoutais un podcast, puis elle disait, bon, elle, c'est une juriste de formation, puis elle dit, comme tout bon juriste, la réponse que je vais vous sortir, c'est « ça dépend ». Il y a des situations oui ou situations non, mais ce titre un peu accrocheur qu'elle utilise, en fait, dans un article pour enfants qui vulgarise ses recherches. Puis elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle travaille sur les relations humains-robots, puis les connexions émotionnelles entre les humains et les robots. C'est super intéressant ce qu'elle est capable de faire ressortir. Là. Moi, à la base, j'ai un peu de la difficulté avec tous les aspects science-fictionnels, robots et compagnie. Je décroche souvent qu'on en parle. Mais elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle tire des conclusions sur l'humain à partir de la manière dont l'humain agit avec un robot.
Oui.
Puis c'est super intéressant. Elle est comme capable de... Elle travaille notamment pour voir le niveau d'empathie des personnes selon la manière dont ils flattent un robot dinosaure ou... comment ça peut les aider, surtout, en fait, c'est ce qui est le plus intéressant, à accroître leur empathie. Par exemple, un enfant, comme un enfant autiste, comment on peut l'aider à développer ses mécanismes d'empathie en interagissant avec un robot. C'est super, super cool.
Très bien. Donc, est-ce que c'est OK? Ben, en tout cas, c'est OK d'observer des humains en train de voir leur réaction, voir s'ils vont kicker ou non le robot. Ça nous en dit long sur eux. Peut-être pas sur le robot, mais sur eux, ça nous en dit long. Bienvenue, Ève. Merci d'être là encore cette semaine. Le deuxième, il s'ennuie de son podcast Open Layer. T'as-tu arrêté les enregistrements? Je vois des enregistrements. Tu publies encore des podcasts, mais tu fais plus d'enregistrements.
J'en avais... C'est quand il y a eu le premier confinement, j'avais, je pense encore, comme 8, 9, 10 épisodes, un enfant comme ça, en avance. Moi, j'étais vraiment, vraiment en avance. Moi, c'était pas la semaine de la COVID, j'allais avoir assez d'épisodes pour finir mon année. Puis j'avais comme un gros crunch que j'allais en faire comme 8, 10 en une semaine. Fait que c'était vraiment bien, mais là, j'ai pas recommencé. J'en ai fait un seul en ligne. Je l'ai pas encore sorti parce que j'ai pas aimé l'effet, le visuel puis tout, mais je vais... Tu sais, c'était vraiment intéressant la discussion. Fait que je vais... Faut juste que je me mette à faire le montage. Fait que tu sais, quand t'en as juste un à faire puis que t'es pas dans la...
Dans le mood, là.
C'est plus difficile, tu sais. Fait que faut juste me rasseoir puis à chaque semaine, je me dis ça. Ça fait un mois. Fait que... Mais je reprendrai pas, moi, avant de faire en personne. J'ai pris la décision de toujours faire mes prochains épisodes en personne, sauf si c'est une personne qui est à l'extérieur du Canada puis que j'aimerais vraiment l'avoir comme invité.
En tout cas, moi, je m'ennuie de vous avoir ici au bureau, en studio. J'espère qu'on va pouvoir bientôt l'enregistrer ça. Il y a une dynamique qu'on ne peut pas vraiment... Ça fonctionne bien à distance, là, mais pas juste le son, mais la dynamique. C'est un peu plus compliqué d'improviser, de répondre, d'être dynamique. Mais en tout cas, moi, ce que je vais faire, par contre, c'est que je vais profiter de ta pause pour essayer de rattraper ton nombre d'épisodes. Là. On va essayer de faire ça rapidement pour...
On est bien parti. Mon avance est en train à fond de plus en plus vite.
En tout cas, on va essayer d'utiliser ce temps-là pour faire plus d'épisodes de IA Café pendant que tu es peut-être un peu plus disponible pour nous. Revenons donc à nos moutons électriques. Dans cet épisode, nous revenons sur l'épisode Carl Maria Merck. Carl, très belle entrevue avec Carl. J'ai beaucoup aimé la discussion qu'on a eue avec lui. Un sujet dense, sujet important, sujet nécessaire, puis séduisant un peu. Moi, je le disais au début dans l'entrevue, là, c'est séduisant là, tu sais, pour un chercheur qui veut des sujets qui sont à la fois difficiles, mais à la fois intéressants du point de vue académique et intellectuel. Ce sujet-là, le combo suicide et intelligence artificielle, ça me semblait être un terrain académique enthousiasmant. Le son de l'entrevue, je le réécoutais, c'était pas top, mais en même temps, je pense qu'en ce moment, tout le monde le sait, là, c'est difficile de faire ça à distance, puis on s'est habitué un peu au son, des fois un peu cacane, ou des fois des connexions qui font que la voix est un peu plus robotique. Puis j'espère que nos auditeurs nous le pardonneront. Carl parlait de plusieurs sujets, donc les thèmes abordés, santé mentale, évidemment, prévention du suicide, des applications AI, mais très appliquées. Donc c'était pour étudier, pour comprendre, pour détecter des comportements délicats, intervenir en matière de suicide, réduire le nombre même de suicides. Aviez-vous déjà entendu parler de ces applications AI dans ce domaine? Est-ce que c'était pour la première fois que vous étiez confronté à tout ça, ou est-ce que vous aviez déjà entendu parler de tout ça?
Moi, je viens d'une famille de psychologues, là, donc j'ai comme baigné dans... Je suis tombée dans la marmite quand j'étais jeune. Fait que c'est comme tout le temps quelque chose auquel je me suis un peu intéressée. Fait que j'avais déjà entendu un peu parler de ce genre de trucs-là. Notamment, le premier chatbot, c'est un chatbot qui était comme... qui se voulait, genre dans les années 60, je ne me rappelle pas exactement, mais qui se voulait un peu psychiatrique.
Ah oui?
C'était très, très, très rudimentaire. Mais depuis, il y avait des trucs plus intéressants qui s'étaient faits. Notamment dans le militaire, puis je pense que Carl en parlait un petit peu, mais des espèces de robots psychologues qui favorisaient la possibilité pour les vétérans de se confier puis de divulguer leurs troubles post-traumatiques, alors que dans les manières habituelles, ils s'ouvraient pas vraiment. Tu sais, des militaires, parfois, ça peut être un petit peu plus réservé face à leur détresse psychologique. Puis c'était comme une espèce d'avatar sur une télé qui était « powered by AI », qui leur permettait vraiment d'aller plus loin, puis de parler de leurs angoisses, leurs cauchemars, puis de comment ils revivaient leurs traumatismes.
Ça, c'était dans les années 60,
sinon, Non. Elisa, le premier chatbot, okay, dans les années 60, se construisant là-dessus, ils ont construit, je dirais, 2010,
okay,
entre 2010 et 2020, un robot psychologue, Ellie, je crois, qui, ça, tu sais, vraiment, c'est de la vraie intelligence artificielle, là, qui reconnaît quel type de confession là, on lui fait, puis qui apprend à faire des mécanismes de transfert et compagnie. Là, tu sais, plutôt intéressant. Puis sinon, ben, truc de suicide, Facebook aussi, qu'on aura certainement l'opportunité de parler, mais parce que ça a été le cœur de la discussion avec Carl, mais Carl, en 2018, avait comme fait un... Ils envoyaient le monde, ils envoyaient les policiers. Là, quand ils détectaient des trucs sur Facebook, ils envoyaient les policiers pour empêcher des suicides. Fait que, ça avait beaucoup de bruit quelques temps.
Ben oui.
Je suis allé valider, c'est bien Ellie. Puis c'est des années 2015 à peu près là, que ça a été fait. Puis c'est effectivement pour les US Army Soldiers pour parler de PTSD.
Puis toi, David, techniquement, t'avais-tu entendu parler de ce genre d'application-là? Tu vois-tu des potentialités? Tu vois-tu...
J'avais surtout attendu, c'était à peu près ça, là, des années 2015 aussi, quand il y avait eu l'histoire avec Facebook, justement, sur la détection de messages de suicide, puis est-ce qu'il y a une action qui doit être prise par Facebook par rapport à ça? Pas plus que ça, mais mes travaux de recherche portent moins sur tout ce qui est santé, mais c'est à peu près ce que j'avais été confronté. Mais suite aux discussions, je suis allé faire un petit peu de recherche, puis j'ai trouvé plein de choses intéressantes quand même, qu'on pourra parler plus tard.
OK, c'est bien. Je vais te relancer un peu plus tard. Y a les exemples d'applications, il y en avait plusieurs. Là, je me permets quand même de résumer un peu ce qui a été dit. Donc, pour Carl, il a mentionné des IA pour analyser les comportements humains, donc qui accompagnent, c'est revenu souvent, qui accompagnent les intervenants. C'est plus de l'ordre du soutien et de l'accompagnement. Des IA qui peuvent nous aider à détecter des comportements à risque, des données pour mieux prédire des comportements pour intervenir. Évidemment, il y avait l'exemple de Facebook qui tente d'identifier des indices de comportements suicidaires, parfois à l'insu même des utilisateurs. Facebook qui évalue le nombre de messages positifs, négatifs, qui influence donc l'effet sur l'humeur. Ça, c'était intéressant aussi. Là. Comment le nombre, c'était pas une si grande surprise que ça, là, mais le fait qu'on reçoive à ce point-là des messages négatifs, ça se peut que ça affecte notre humeur. On est dans les élections américaines en ce moment, là, on le sent un peu. Autre exemple, Google et Twitter. Qui utilisait des outils de modération automatisés pour signaler, là aussi, des comportements à risque. Il nous a parlé du projet Durkheim, de la DARPA aussi. Très intéressant là, de voir comment, pour les vétérans de guerre, comment des outils là, pour repérer, je pense que c'était à travers les discussions ou échanges courriels de ces vétérans-là, est-ce qu'il y aurait des signes suicidaires ou des signes de santé mentale problématique. Il nous parlait aussi des IA en infodémiologie. Donc, c'est comme l'épidémiologie là, avec la COVID-19, mais pour lier à de l'information. Donc, des outils de repérage d'informations pertinentes, utiles dans des bases de données cliniques. Donc, ça a été mentionné. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Des IA qui nous accompagnent dans la gestion des réseaux sociaux, qui détectent là aussi des comportements déviants. Et il nous a parlé du Canada Protocol, donc l'outil développé par Carl. C'était à la toute fin de l'entrevue. Je me suis permis quand même de résumer les principales questions là, que si vous êtes en train de développer une application AI, là, si on reprend le protocole en question, donc, si vous êtes dans l'industrie, vous êtes en train d'essayer de développer ça, là, une application où il y a des données en santé qui sont colligées ou qui traitent de problèmes de santé. Les questions que Carl nous suggérait, c'était, première question. Avez-vous pensé à la valeur de la science sur laquelle s'appuie votre produit? Ce qui est une bonne idée, là. Ça tient-tu la route, là, ou c'est juste une mauvaise idée mal fondée? Avez-vous pensé à l'utilité, mais pour la population ciblée? Des questions importantes comme avez-vous pensé à vos conflits d'intérêts? Ça, c'est intéressant de le poser là, dès lors qu'on se met surtout si on veut que les personnes aient confiance envers notre application, si vous êtes en conflit d'intérêts, puis ça finit par se savoir, gageons que non seulement ils vont perdre confiance en vous, mais en l'application aussi qu'ils tentent de développer. Autre question, toujours dans le Canada protocole. Avez-vous pensé aux enjeux liés à la transparence? Donc, on voit là, c'est des enjeux éthiques là, qui reviennent, qui vont revenir même dans nos différents épisodes. Avez-vous pensé donc aux enjeux liés à la transparence, liés à la vie privée, liés au consentement libre et éclairé? On parle du droit à l'oubli. C'est intéressant, c'est une notion qui devrait revenir aussi, ça, le droit à l'oubli. Lorsqu'on donne des données, le droit au retrait, mais le droit à l'oubli, à l'effacement, là, je dirais, de nos traces, c'est intéressant. Autre question, toujours dans le protocole. Avez-vous pensé aux enjeux de sécurité? Ben là, il faudrait, j'imagine, qu'il faut penser à ça. L'accès, donc, aux tierces parties, les données sensibles, le besoin peut-être d'intervention humaine. On est toujours dans la sécurité. Là. Des fois, les applications, on a besoin d'avoir un humain à l'autre bout qui est toujours prêt à intervenir au besoin. Autre question, avez-vous pensé aux risques sur la santé? Évidemment, donc les soins prévus, la réaction que vous aurez si jamais vous détectez des risques sur la santé, comment les résoudre, comment accompagner. Donc là, ici, il y a tous les concepts là, de bienfaisance, non-malfaisance, faire du bien, pas faire de mal. Donc ça revient toujours dans son protocole. C'est plein de questions là, qui sont riches. C'est sûr que je les liste comme ça, mais il y a plusieurs enjeux éthiques importants. Je pense qu'on pourrait réfléchir sur chacun de ces thèmes, mais c'est intéressant de les lister comme ça pour voir tout ce à quoi il faut penser. Tu sais, des fois, on essaie de développer des applications, c'est quoi les enjeux éthiques, il faudrait penser à tout. Bien, tout, vous ne serez jamais capable, mais si vous passez à travers le protocole, bien, c'est déjà un bon départ. Dernière question, avez-vous pensé au biais? Ben oui. Donc, au biais, non seulement dans l'exécution de l'application, mais dans les données qui ont été utilisées pour développer l'application, qui seront colligées par l'application. Donc, tout ça dans la sélection, la transformation, les biais, on y revient. Donc, ça, c'était les cinq grandes catégories, là, je dirais, des questions auxquelles il faut penser, du moins à la lumière du protocole proposé par Carl et son équipe. Vous, dans l'entrevue avec Carl, je liste des choses, je fais le résumé. C'est quoi qui a attiré le plus votre attention dans ce que Carl nous... les termes qui ont été abordés?
Tout était tellement intéressant. Moi, il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est quand il parlait du fait qu'on essayait souvent de trouver, qu'actuellement, on essayait de trouver les chercheurs essayaient de trouver des modèles de prévention du suicide qui est un peu universel, qui s'appliquait à tous, puis avec les Facebook de ce monde qui discutent de modération de contenu, puis qui essayent d'appliquer des règles partout les mêmes. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, les particularités nationales, les particularités... comment chacun des États peut, ou chacune des populations, chacun des groupes peuvent avoir leurs propres caractéristiques. Par exemple, quelqu'un qui parle fort, est-ce que ça veut dire qu'il y a un trouble de personnalité limite? Ben, tu sais, peut-être que c'est pas la même chose au Canada qu'ailleurs.
Ouais,
ça, je trouvais que c'est un élément intéressant. Puis bon, ça se reproduit. Ça se reproduit aussi dans le contexte du suicide. Là. Qu'est-ce que l'expression d'une détresse, qu'est-ce que ça veut dire ici, qu'est-ce que ça veut dire ailleurs? Ça, je trouvais ça plutôt
cool. Oui, je pense qu'il résistait à l'idée que d'appliquer des techniques puis des solutions qui fonctionnent à très petite échelle dans une société particulière. Ici, au Québec, qu'est-ce qui fonctionne? Mais là, de prendre ça puis d'appliquer ça à très large échelle, disons, sur des réseaux sociaux, en présumant que notre façon de détecter les comportements qui peuvent être à risque ici au Québec, bien, ça pourrait s'appliquer à l'entièreté du monde, peu importe la culture, peu importe la société. C'est ça, appliquer des... Ils trouvaient ça peut-être risqué, sinon imprudent, là, de tenter d'appliquer des constats peut-être démontrés à petite échelle, mais à cette large échelle-là, il y avait un risque. Toi, David, qu'est-ce qui a attiré ton attention?
Ouais, je continue un petit peu sur le même point, puis tu sais, finalement, on parle ici, c'est un problème de généralisation du problème. Donc, tu sais, on essaie d'avoir, d'observer des cas très spécifiques, puis de généraliser pour l'ensemble du monde, puis de voir, on fait des données des États-Unis, puis on a des modèles qui sont bons pour la Chine, puis etc. partout. Donc, tu sais, ça amène quand même des problèmes. Tu sais, souvent, dans ce type d'approche-là, on va avoir des métriques, donc une espèce de façon de calculer les erreurs, puis de s'évaluer pour dire notre modèle est bon comme ça. Puis, ben, je vais ramener un petit peu à ceux qui ont fait un peu des statistiques. Qu'est-ce qui est très dangereux dans ce cas-là, à un sens, c'est de ne pas détecter un positif. Fait qu'on dit quelque chose qui est négatif, alors qu'il devrait être positif, donc c'est un faux négatif. Puis, Facebook, entre autres, c'est ça que je l'ai beaucoup parlé. Il y a un article en 2015, ils ont lancé ce programme-là. Puis, ils ont mis en place un système qui permet de détecter. Fait que c'est sensiblement un sentiment analysis qu'on appelle. C'est suite à des messages ou à du contenu que je propose, on essaie de déterminer c'est quoi mon sentiment par rapport à une position. Puis là, ben c'est un peu mes émotions aussi qu'on tente d'avoir. Sentiment par rapport à ma vie, peut-être qu'on pourrait dire. Puis, un point qui est ressorti, une étude finalement qui étudiait ça, parce que c'est fait très dans un vase clos. Là. C'est une compagnie privée en bourse qui a des intérêts commerciaux qui décide de prendre finalement un espèce de projet de société, de pouvoir avoir un impact sur la vie des gens, puis de faire ça très fermé, là, on fait ça à l'interne. Puis, il n'y a pas vraiment eu de nouvelles là-dessus. Ils ont annoncé ça en 2015, puis en 2017-2018, fin 2018, il y a des chercheurs qui ont commencé à s'intéresser à ça. Puis, il y aurait 3500 cas où est-ce que Facebook a appelé les autorités locales pour dire qu'il y a quelqu'un qu'on pense qui fait une atteinte à sa vie.
3500 au total?
3500 cas, du moins, qui ont été recensés. Là, ici, en 2018, dans cette étude-là, 3500 cas qui ont été. Là, ils ont cherry-pick quelques-uns, puis ils donnent des exemples. Sur 4 cas qu'ils ont étudiés, il y en a un que la personne, ils ont réussi à sauver la personne. Okay. C'était un live stream de son suicide. Fait que sans dire que c'était facile, on peut dire que c'est un cas assez facile. Tu fais un live stream, puis les symptômes sont assez là. Il y en a deux qui sont arrivés trop tard, malheureusement pour ces personnes-là. Puis la quatrième, c'était un faux positif. C'est-à-dire qu'on a dit qu'on pensait que la personne allait se suicider, mais elle ne voulait pas se suicider. Les policiers sont arrivés sur place. Là, la personne a dit non, je n'ai pas envie de me suicider, non, rien. Puis ils ne l'ont pas cru, ils l'ont embarqué, puis ils l'ont envoyé dans un hôpital psychiatrique. Et ça, ça a quand même des dommages importants parce que là, tu dis, ah, c'est pas si pire, tu vas juste à l'hôpital. Ouais, mais mettons, aux États-Unis, là, tout ce qui est santé mentale, c'est des dossiers qui te suivent à vie pour ton assureur. Fait que là, elle est peut-être plus assurable à cause de ça. Là. Peut-être qu'elle est plus capable d'avoir une assurance vie parce que, ou une assurance médicament parce que là, elle a un dossier comme quoi qui rentre en hôpital psychiatrique pour tentative de suicide, même si c'est pas vrai. Ça se pourrait qu'elle peut plus s'assurer, avoir droit à des médicaments, avoir droit à des emplois parce qu'il y a un ordinateur quelque part dans un vase très clos qui a dit, on pense que cette personne-là veut se suicider. C'est quand même important comme dommage sur la vie des gens pour une entreprise qui est cotée en bourse, qui n'a aucun droit de retard, pas de comité d'éthique, c'est pas un projet. Puis un point important que justement, qu'ils disent, c'est qu'en santé, les chercheurs qui font ce genre de programme-là ont un bagage à avoir là, de choses à s'assurer, la conformité, d'être transparent, d'être ça. Puis eux autres font ça en toute impunité, dans l'ombre totale. Puis il n'y a personne qui est capable de mettre une loupe là-dessus et de dire ça, ce que tu fais, c'est pas correct. Genre, t'as pas le droit de faire ça. Puis c'est juste des gens comme toi et moi qui est bon en nécessairement en informatique qui fait des affaires comme ça. En tout cas, du moins, ce que je peux voir avec ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont dans l'équipe, là. Je fais un petit peu peut-être un jugement là-dessus, mais présentement, c'est à ça que ça ressemble. Tu sais. On n'a pas d'idée qu'est-ce qui s'est passé, là.
Oui, mais c'est intéressant. Ça explique aussi pourquoi Carl. Donnait autant d'importance à ce problème-là là, qui sont les faux positifs. Donc, de ne pas détecter à la limite quelqu'un qui a des comportements qui peuvent être dangereux, à la limite, ça serait peut-être tolérable plus que de, justement, je pense que l'exemple que tu donnes est éclairant, là, l'idée qu'on pourrait cerner ou identifier une personne qui aurait des comportements suicidaires alors qu'elle nie tout ça. Donc, déjà, si elle le nie, pour moi, ça me satisfait comme preuve, en tout cas suffisamment pour ne pas l'embarquer puis l'amener à l'hôpital. Mais on peut voir où ça nous mène tout ça. D'ailleurs, c'était toi, Eve, qui avais soulevé l'idée de cette prophétie. Ça revient souvent là, avec le suicide. Prophétie auto-réalisatrice, c'est-à-dire que le simple fait de l'évoquer ou de pointer pourrait induire des comportements délicats, c'est ça?
Oui, absolument. T'sais. Puis à la limite, je ne sais pas exactement comment les mécanismes fonctionnent, comment ça mène à ça, mais si on me dit que j'ai tous les traits d'une personne suicidaire, que possiblement ma vie va pas si bien, ben ça introduit dans mon esprit cette possibilité-là. Puis une fois que la possibilité est introduite dans mon esprit, ben, ça peut pernicieusement faire son chemin, ce qui est un peu tannant là, quand même, mais pour encore utiliser un euphémisme, ouais, mais puis je m'interroge quand même aussi là, sur les questions, ben, clairement, de protection des renseignements personnels, puis sur ces renseignements personnels-là, je pense que je le disais dans l'entrevue, mais normalement, quand tu collectes une donnée, quand Facebook collecte une donnée, elle doit avoir une finalité, puis te dire à quelle finalité elle collecte ces données-là, puis je suis pas mal certaine que ça fait pas partie des motifs, là. Je pense pas que Facebook, je suis certaine que Facebook ne nous parle pas de la protection de notre santé mentale quand on consent et on s'abonne à ce site-là. Puis,
comme je me rappelle pas d'avoir consenti à ça, c'est sûr.
Est-ce que tu te rappelles d'avoir lu La Politique?
Je m'en rappelle pas non plus.
C'est ça. Il n'y a personne qui les lit au final, là, les stats sont clairs là-dessus. Il n'y a personne qui lit les conditions d'utilisation de Facebook, mais.
Oui, on reviendra avec l'exemple de notre prochain invité. William, lui, William a abordé ça, là, les contrats. Il reviendra peut-être un peu plus tard, mais c'est intéressant. Les faux positifs, le risque d'erreur. D'ailleurs, parlant d'erreur, j'en ai fait une pendant l'entrevue. Je me réécoutais où j'ai fini par dire, à force d'en parler, ça va arriver. Là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on parlait pendant l'entrevue de la série 13 Reasons Why ou quelque chose comme ça. En disant, puis je disais, ben, à force de parler de suicide, ça peut peut-être engendrer des comportements suicidables. J'ai résumé en disant, à force d'en parler, on va générer des suicides. Puis à cela, il m'a répondu, non, c'est pas exactement ça. Puis je pense que c'est bien de refaire cette nuance-là. Là. C'est-à-dire que, puis je suis allé voir sur le Service canadien de prévention du suicide où c'est clairement expliqué, là. Puis bien mentionné d'ailleurs que parler du suicide n'engendre pas de suicide. Hein, donc, c'est aussi clair que ça. Ce que Carl expliquait, c'était l'effet plutôt Werther, je ne sais pas avec quel accent qu'il faut que je le dise, l'accent de Saguenay ou l'accent anglais. Il disait que c'était en 1982, donc un sociologue qui étudiait le nombre de suicides suivant l'apparition dans les médias d'un cas de suicide. Puis quand on a des parutions de cas de suicide dans les médias avec des personnalités publiques, là, on a un effet sur les comportements suicidaires des populations là, qui peuvent être touchées par ces suicides-là. Là. Comme l'exemple qu'il disait dans l'article en question que je suis allé explorer, il disait, à mon époque, le suicide de Kurt Cobain, il y a eu une hausse de 11,7%, là, probablement ici que c'est la détection de comportements suicidaires. Donc, 11 points. Donc, il y a un effet là, significatif, mais pas lorsqu'on en parle. Lorsqu'on fait de la sensibilisation, il n'y a pas d'effet, mais c'est plutôt lorsqu'il y a des comportements suicidaires, lorsqu'on se met à décrire comment le suicide a été commis à ce moment-là. Il y a tout à coup des tendances de façon, de méthodes suicidaires là, qui peuvent tout à coup le prendre une sorte de... d'être de plus en plus populaire et curieusement et absurdement populaire. OK. Donc, les faux positifs, ça a attiré notre attention. Moi, je dirais que ce qui a attiré mon attention aussi, c'est c'est l'idée même que... Moi, je pense que c'est ça qui m'intéressait peut-être davantage puis que j'aurais aimé... j'aimerais éventuellement discuter avec lui de tout ça. Là, c'était lorsque Carl il expliquait comment ces intelligences artificielles peuvent être utilisées comme outils épidémiologiques. Donc, c'est un peu comme on analyse là, la COVID en ce moment là, avec le nombre de cas. Comment on pouvait utiliser l'intelligence artificielle pour étudier, ben, de la même façon qu'on étudie la COVID, là, le nombre de cas, le nombre de détections, le nombre d'hospitalisations, puis tranquillement de faire des recoupements. Hein, on imagine là, l'intelligence artificielle avec la puissance d'analyse qu'on est capable d'aller chercher avec ça, être capable d'aller chercher toutes ces données-là puis de les recouper avec d'autres critères, hein, d'autres critères sociaux, d'autres critères analysés, je sais pas, les politiques publiques, les différentes mesures de confinement en ce moment, pour faire des liens entre le taux de confinement puis tout à coup le nombre de comportements suicidaires puis tranquillement essayer de voir ou demander à ces intelligences artificielles-là de nous aider à voir peut-être des corrélations et peut-être mieux encore des causalités, puis éventuellement intervenir sur ces comportements-là. Donc, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'encore plus intéressant. On a surtout abordé l'aspect individuel, personnel, comment que l'outil peut nous aider à détecter des comportements individuels problématiques. Mais moi, ce qui m'intéresserait davantage, c'est voir comment ces outils-là peuvent être efficaces pour nous aider à identifier des comportements sociaux ou des traits sociaux ou des critères sociaux qui peuvent influencer le nombre de suicides par année, par exemple. Moi, ça me fascine depuis que je m'intéresse un peu à la sociologie, là, avec les travaux de Durkheim. Il y avait ça, il y avait l'idée complètement farfelue que chaque société génère son nombre de suicides à chaque année, là. Puis il y a des sociétés qui génèrent plus de suicides que d'autres. Je suis allé voir les chiffres en ce moment. En Lituanie, c'est en ce moment 31,9 suicides par 100 000 habitants, puis c'est assez constant au cours des années. Maroc, 2,9, donc de 31 à 2,9. En France, 17,5 suicides par 100 000 habitants. Au Canada, 12,5. Donc, chaque société, qu'est-ce qu'il y a dans nos sociétés qui génère un peu plus ou un peu moins de suicides? L'idée que j'avais en tête, c'est est-ce que ces IA-là, qui sont capables d'aller voir, tu sais, d'aller éplucher plusieurs critères, plusieurs paramètres, est-ce qu'éventuellement, ils seraient capables de nous aider à identifier des critères un peu plus sociaux, là, épidémiologiques, le suicide compris là, comme une épidémie? Est-ce que ces IA-là pourraient nous aider, c'est ça, identifier des critères plus sociologiques sur lesquels, éventuellement, on pourrait agir. Donc ça, c'était la dimension là, de ces outils-là appliqués au suicide que j'aurais peut-être aimé explorer encore un peu plus. Pas juste la détection des comportements problématiques ou délicats individuels, mais les critères sociaux là, sur lesquels qu'on pourrait peut-être mieux comprendre grâce à ces IA, puis éventuellement sur lesquels on pourrait peut-être agir. Donc c'était la partie qui a attiré, pas qui a attiré mon attention pendant l'entrevue, mais je dirais que c'est le côté quand je repartais à la maison, quand je marchais, là, c'était ce bout-là là, du questionnement que j'avais pas assez exploré, puis qui me spinait un peu en tête. Vous, est-ce qu'il y avait d'autres choses qui avaient attiré votre attention pendant l'entrevue?
Ben, pour continuer un peu sur ce que tu dis, effectivement, c'est vrai que, tu sais, parce que actuellement, on voit beaucoup l'IA, on appelle en supervisé, donc on a un objectif à atteindre, puis on entraîne un modèle pour atteindre cet objectif-là, c'est-à-dire, par exemple, une étiquette A, B, C ou D, ou des choses comme ça. C'est beaucoup qu'est-ce qui est très utilisé couramment sur le marché parce que c'est facilement atteignable, entre guillemets, puis c'est ça les premières avancées qu'il y a eu. Puis là, ce que tu parles plus, c'est beaucoup plus quelque chose qui est... Trouve-moi des patterns, analyse-moi des trucs, mais genre, je sais pas qu'est-ce que tu dois chercher, mais tu dois chercher quelque chose qui est plus non supervisé qu'on appelle. Puis c'est vrai que ça, présentement, c'est en train d'évoluer, puis c'est vraiment intéressant, mais c'est plus c'est comme l'analyse de données, du forage de données, des trucs comme ça. Puis ce que j'ai l'impression, c'est que c'est pas encore, cette connaissance-là n'est pas encore arrivée pleinement en sciences sociales. C'est encore très niche en informatique. Fait que c'est peut-être pour ça que, justement, on n'a pas encore eu des choses, mais effectivement, il y a peut-être un aspect économique peut-être à ça aussi. Les sciences sociales, les premières qui sont appropriées, si on veut, l'IA, c'est marketing, e-commerce, des choses comme ça, parce que on ne va pas se cacher, il y a de l'argent à faire. T'sais. Alors que là, un étudiant qui n'est pas nécessairement, qui est en sciences sociales, souvent l'étiquette de pas nécessairement aimer les maths ou des choses comme ça, ou l'informatique, c'est peut-être pas quelque chose qui est proche pour lui. Fait que c'est peut-être pour ça que j'ai l'impression, mais effectivement, je pense qu'il y aurait vraiment un plus-value. C'est là que le multidisciplinaire serait intéressant de dire, hey, on va prendre qu'est-ce que vous faites en informatique, là, amène-moi un chercheur, puis on va faire du forage de données, puis on va chercher, on ne sait pas qu'est-ce qu'on cherche, mais on veut chercher des comportements, on veut faire sortir des choses.
On va peut-être trouver des liens entre différents critères, je ne sais pas, la présence de telle politique publique qui revient toujours, ou tel filet social qui est toujours là dans telle société, qui tout à coup influence à la hausse, à la baisse, les comportements suicidaires. Donc, c'était l'aspect, la dimension sociologique de tout ça là, qui a plus attiré mon attention. Ève, tu avais quelque chose à ajouter ou non?
Oui, ben, je rebondirais là-dessus. Je trouve ça super intéressant intellectuellement parlant, mais je vais arriver un peu comme un casseuse de party peut-être.
Vas-y.
Mais est-ce qu'on n'est pas un peu dans l'ordre du techno-solutionnisme, tu sais, dans le sens où le suicide, c'est un problème qui est grave, on va, avec des outils technologiques, essayer d'y répondre. Par exemple, si on regarde les communautés autochtones dans le Grand Nord, au Canada, tu sais, c'est une des sociétés qui serait plus proche de la Lituanie, là. Il y a des taux importants de suicide, puis j'ai l'impression qu'on a quand même une bonne idée de certains des facteurs qui militent à ça. C'est quand on vient à agir que c'est peut-être moins facile de le faire, puis d'investir les budgets d'action de prévention du suicide sur un algorithme plutôt que sur des mesures et enforceable tout de suite. J'ai un petit dilemme, là.
Ah oh oui!
Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, là.
Oh oui, mais je pense que t'as raison là-dessus. C'est bien de le rappeler, là. Ouais. C'est-à-dire quand t'as un psy... qui fait de l'urgence, là, puis un algo à développer pour voir s'il n'y a pas des petits critères qui se cachent un peu partout. Je suis d'accord avec toi, là. Faudrait avoir être sûr d'avoir les bonnes priorités, là.
Mais tu sais, dans ce cas-là, c'est peut-être, pour ramener la discussion encore, c'est peut-être pas la bonne personne qu'on sait. T'sais, si on parle beaucoup de cibler l'individu, mais peut-être qu'on pourrait cibler le professionnel, lui donner des meilleurs outils pour intervenir dans telle situation. Par exemple, justement, avec des comités des Premières Nations, peut-être que tu parles pas bien son langage. Fait que peut-être qu'on pourrait te supporter avec un modèle qui pourrait te traduire qu'est-ce qui est dit ou de merger plusieurs informations. Mais effectivement, c'est vrai qu'on cible souvent justement l'individu ou on pointe du doigt avec une solution techno alors que peut-être qu'on pourrait juste peut-être rediriger le problème vers ailleurs puis se dire, ouais, c'est peut-être pas nécessaire, là, c'est juste du fla-fla qu'on lance dans les airs puis qu'on dépense d'argent pour faire cool.
C'est un effet bien, wow. Là, c'est bien de nous le rappeler, le techno-solutionnisme, là, c'est sûr que là, on est sur AI, puis on pourrait donner l'impression que l'AI va résoudre tous les problèmes de la Terre, y compris le suicide. Puis je pense que tu as raison de nous le rappeler. Là, c'est intellectuellement, c'est intéressant, mais c'est peut-être pas l'outil le plus pertinent, du moins pour l'instant. Nous autres, ce qu'on dit, le techno-solutionnisme, là, c'est l'idée que pour quelqu'un là, qui a juste un marteau, là, tout a l'air d'un clou. Hein? T'es comme outil, là, quand ton seul outil, c'est un marteau, là. Fait que c'est ça. Pour l'instant, là, on a comme seul outil à explorer, c'est l'IA. On a l'impression que tout est des clous, là, qu'on pourrait résoudre ces problèmes-là avec l'intelligence artificielle. Mais c'est bien de nous le rappeler. Là, il y a peut-être d'autres méthodes en ce moment beaucoup plus efficaces que tout ça là, pour résoudre les problèmes du monde.
Ça me fait penser, je continue à bondir là-dessus, que tu sais, quand il y a eu la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on a beaucoup cru à l'instauration d'institutions internationales comme le Fonds monétaire international, l'ONU, pour résoudre tous les problèmes que l'humain avait. On avait vraiment donné une grosse confiance entre la micro et la macroéconomie pour se dire il n'y aura plus de crise économique, on va mettre quelque chose en place, Keynes est arrivé des idées incroyables. Ben, je sais pas, 60, 70 ans plus tard, j'ai pas l'impression que ça s'est concrétisé. Fait que tu sais, j'ai l'impression que quelque part, l'humain corrompt un peu ses propres idées, ou je sais pas si c'est l'humain, ou il y a quelqu'un quelque part qui corrompt ses idées-là puis qui l'utilise à son bénéfice. Fait que j'ai peur que l'IA soit the next thing, genre, ou un autre niveau de truc qui pourrait arriver à un point de dire « Hey, on a plein d'outils puissants, puis qu'on fasse des débordements. » Fait que je suis content au moins de voir qu'il y a beaucoup de gens qui réfléchissent à puis qu'on puisse prendre notre expérience historique puis qu'on se retrouve pas dans le même pattern, ben ça serait plate d'arriver avec une pire situation qu'est-ce qu'on avait avant, alors qu'on se disait que ça allait sauver tout.
Ça allait sauver le tout.
S'enlever de la tête, ça sauvera pas tout. Ça va pas tout sauver.
J'aime bien l'idée de Ève, là, peut-être que ça nous aidera à conclure tout ça, là, l'humilité technologique, là, nous rappeler que même si là, on est en... Puis là, faut pas verser non plus là, dans... l'enthousiasme un peu niais là, qui associe des fois l'intelligence artificielle, là, qu'on va résoudre tous les problèmes du monde avec ça. Se rappeler que c'est un outil technologique puissant, intéressant, intellectuellement très stimulant, mais concrètement, entre les idées qu'on déploie, puis ce qui se fait plus concrètement, faut voir si en ce moment, les outils qu'on a à notre disposition, quels sont, surtout en matière de suicide ou de problèmes de santé mentale, quels sont les outils les plus efficaces ici et maintenant pour tenter de résoudre ces problèmes-là. Le reste, je pense que c'est notre fibre chercheur là, qui est bien là, là, c'est-à-dire qu'on on tripe plus sur les problèmes, les solutions intellectuellement stimulantes, mais des fois, un marteau pour cogner sur le clou, ça peut régler bien des problèmes. Moi, là, je suis en train de virer mon analogie à l'envers, là, donc je risque de mêler tout le monde, c'est pas meilleur. Donc, ce sera tout pour notre... désolé d'aller aussi vite, ce sera tout pour notre entrevue avec... avec Carl Maria Merck. Merci encore à Carl de nous avoir accompagnés, de nous avoir permis d'aborder un sujet qui est... c'est pas tous les jours là, qu'on discute de ce genre de sujet-là. Donc, c'est un sujet nécessaire, profond, passionnant. Le seul sujet important, c'est ce que j'avais dit en introduction, là, selon Camus, c'est le seul sujet important. Puis là, on est à l'épisode 13, là. Donc, on a déjà passé le seul sujet important. Désolé de vous le dire comme ça, là. Mais le reste, ce sera moins important comme sujet. Mais du moins, on comprend mieux le sens de cette provocation de Camus. On va conclure là-dessus. Merci. Merci à vous deux, Ève, David, de m'avoir accompagné aujourd'hui. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode d'IA Café. Mon nom, Jean-François Sénéchal. Prenez soin de vous et on se revoit au prochain épisode. Et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye bye.